Noir 102.1.
Exactement 7h29 du matin. Vous êtes à Marceau le matin. Yannick est en vacances. Je le rappelle, il sera de retour la semaine prochaine. Le Point de Max va suivre Marceau le matin. On en jase avec Pascal CV et moi-même de midi à 14h. Et le retour de Gravel de 14h à 18h avec Max Larouche en remplacement d'Audrey Pinchot. 418-971-1021 pour réagir à notre émission. Vous pouvez nous écouter aussi via l'application Boulevard 1021 dans le App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir notre belle face en studio. Et vous avez le BLVD.FM, ça inclut la web radio et surtout nos meilleurs moments. Et je sens que la prochaine entrevue va être un bon moment de radio, un moment très pertinent pour nos auditeurs et auditrices, et ça va assurément se retrouver sur le BLVD.FM. Pascal CV, présente-nous notre prochaine invitée.
Très contente qu'on lui parle ce matin. C'est un ancien militaire canadien, c'est un Québécois. Il est devenu maintenant volontaire sur plusieurs fronts. On l'appelle, on fait affaire à son expertise. Mais de l'Afghanistan à l'Irak, à l'Ukraine. C'est un gars qui a été sur le terrain. Il connaît c'est quoi les défis humains d'engagement militaire, les défis humains des guerres. Et je pense que son expertise terrain peut vraiment nous amener à avoir un autre éclaircissement sur la façon dont on a procédé avec les États-Unis à l'enlèvement de M. Maduro et actuellement le procès qui se déroule aux États-Unis parce que c'est beaucoup les droits internationaux qui sont l'épée Damoclès en ce moment dans le dossier. Et pour certaines personnes, c'est risible d'entendre la Chine, la Russie dire « OK, là, Donald Trump ne fait pas ce qu'il doit faire, il est en train de contrevenir aux droits internationaux. » Mais on a souvent l'analyse de gens en politique. On a souvent l'analyse de gens dans le droit qui sont très près aussi de la justice, etc. Mais on n'a pas eu l'analyse de quelqu'un qui a goûté au terrain, qui a goûté à la chaleur, à qu'est-ce qui peut faire sauter une coche à un dirigeant, par exemple, qui n'a pas nécessairement les mêmes mœurs, la même éthique que nous. Puis aujourd'hui, on a Wally qui se joint à nous à la discussion, qui est par Zoom directement sur les ondes de Boulevard 102.1 et on va lui parler. C'est cet ancien militaire canadien-là. C'est un sniper très reconnu. Vous l'avez certainement vu dans l'actualité auparavant.
Exactement.
Salut Wally.
Bon matin, ça va bien?
Ça va super bien. Bon début d'année. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour toi?
Ah, ben là, les enfants sont là parce que j'espère qu'ils font pas de bruit parce que là, il y a eu un problème à la garderie. Fait qu'il a fallu que je les garde dernière minute. Fait que là, ils mangent leur petit céréale à côté. Puis là, je leur ai dit de ne pas faire trop de bruit.
C'est toujours drôle de t'entendre parler d'enfants puis de train-train quotidien avec la vie que tu as eue, là, et que tu as.
Ouais, ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, je suis en train de finir mon livre sur l'Ukraine d'ailleurs. Puis j'en parle, je révèle un peu cette réalité-là, là, qui m'est connue, là. On reste des humains, il y a un côté caché, souvent, tu sais, j'ai remarqué, pour faire une petite parenthèse, que moi, je pensais que ça intéressait personne, ces choses-là, avant, là. Puis ça, c'est le monde qui me posait constamment des questions. Quand je dis le monde, ça peut être public, lecteur, des producteurs ou whatever, tu sais, qui me disent, c'est comme quasiment aussi intéressant, sinon plus, de voir tout ça, t'sais, qu'est-ce qui se passe un peu, le behind the scenes, puis etc. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma réalité à matin. Je vous parle, puis mes enfants mangent des petites céréales à côté, puis je leur dis « Faire attention de ne pas trop faire de bruit. » Mais ils ont l'âge de comprendre quand même assez, là, tu sais.
Jamais j'aurais pensé, Pascal et Max, parler au sniper par excellence au Canada, alors que ces enfants de 3 à 5 ans qui mangent des céréales à côté
de lui. Trois bouchées de Lucky Charm. mais Wally, la légitimité pour toi de parler de ce qui s'est passé, d'analyser ce qui s'est passé sur le terrain au Venezuela, est-ce qu'il se passe encore? Comment est-ce qu'on peut en jaser ce matin?
Oui, bon, légitimité, je comprends bien la question, dans le fond, c'est, moi, je pense que tout le monde a le droit à une opinion, premièrement, comme citoyen, c'est des choses qui impactent tout le monde, fait que tout le monde peut avoir une opinion, là, savoir si quelqu'un a une opinion figée dans le béton, à mesure que l'information change, ça, c'est une autre chose, mais je pense que, tu sais, moi, j'invite tout le monde à avoir des opinions sur tout dans la vie. C'est juste qu'il ne faut pas que les opinions soient figées dans le béton. Puis là, on peut en avoir sur ce qui s'est passé, on peut avoir des opinions techniques, sur comment que les opérations se sont déroulées, etc. On peut avoir des opinions politiques, on peut avoir des opinions autres. Ce qui est certain, c'est que dans ce cas-ci, c'est que l'opération a été super bien exécutée d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, tactique, etc. Là, ce qui reste à voir, c'est plus la suite. T'sais, on dit souvent, on peut gagner une bataille, mais perdre la guerre. Puis en ce moment, la guerre, parce que c'en est une, t'sais, quand on regarde ça, il n'y a pas une déclaration de guerre, mais tu sais, c'en est une, tu sais. Ben, elle n'est pas gagnée. Là. Il y a encore le parti de Chavez au pouvoir, Maduro, là, en fait, là, son successeur, mais c'est encore ce parti-là qui est officiellement anti-américain, mais qui dit quand même un peu vouloir collaborer, qui est au pouvoir. C'est quand même pas gagné, là. Tu sais, faut s'en rappeler. Puis si je retourne un peu sur, c'est pas la légitimité, mais un peu le pourquoi j'aime ça commenter ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est faut pas oublier. Moi, je dis souvent, tu sais, je suis une des personnes les plus informées en termes de qu'est-ce que les gens pensent en général, parce que je peux te connaître un sergent au front en Ukraine, un soldat au Moyen-Orient, dans une armée du Moyen-Orient. Je connais du monde NATO, je connais des généraux, je connais des ministres, j'ai parlé au bureau du président de l'Ukraine, là, tu sais, plusieurs fois. Tu sais, fait, je connais à peu près tout le monde, puis je peux connaître à peu près tout le monde si je veux le connaître. Si je veux savoir si comment quelqu'un pense. Puis avec mes histoires de terrain, en plus, j'ai comme cette espèce de capacité à commenter avec des anecdotes, avec des choses que j'ai vraiment vécues. Par contre, quand tu regardes l'analyse géostratégique à haut niveau, etc., j'ai zéro étude là-dedans, je m'informe beaucoup, mais c'est pas ma spécialité. Mais en même temps, on vit une époque assez intéressante où on est un peu, je dirais, on parle souvent du syndrome d'imposteur, là. Mais tu sais, on vit une époque, je dirais, que tout le monde est un peu l'imposteur de quelqu'un. Parce qu'il y a, je travaille en tech, hein, je travaille en technologie, il y a tellement de choses à savoir à notre époque, tu sais, que pour vrai, c'est sûr que dans un domaine d'expertise X, que tu sois militaire à radio, par exemple, un technicien X, Y, Z, c'est sûr que tu vas souvent tomber sur des domaines inconnus ou que tu vas être obligé d'explorer très rapidement ou que tu ne connaîtras pas en partie. Puis je parle aux technologies, tu sais, tu peux être un général ou tu peux être un spécialiste en géopolitique. Tu n'as jamais mis les pieds au Venezuela. Tu ne parles pas l'espagnol. Tu n'as jamais fait une opération militaire.
Fait que t'es
Tu
en
n'as
train
jamais.
d'appeler à la prudence dans le commentaire, là, à
Oh
savoir
oui,
si
on
c'est
faut
positif ou
exactement. Il faut être
négatif.
prudent, puis il faut être humble. Puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote un peu là-dessus. J'avais été voir un séminaire d'un historien militaire, d'ailleurs, quand j'étais dans l'armée. C'était drôle parce que les gens posaient des questions à cet historien-là, extrêmement spécialiste. Puis quasiment à chaque fois qu'il répondait, il disait: Ah, ben ça, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Puis il donnait une espèce de description 5 minutes extrêmement détaillée de la chose.
Hey
Mais ça, c'est
Wally,
un. Mais ouais, mais ça, c'est un truc, en passant, pour savoir si quelqu'un est probablement peut-être pas un expert, mais du moins quelqu'un qui est quand même certaines connaissances, c'est son humilité. La façon qu'il va tout le temps nous rappeler, écoutez, je sais pas tout ça. Ça, je peux vous en parler de telle façon, mais je suis pas capable de vous en parler de c'est pas mon domaine. Je sais pas, à chaque jour, je fais ça. Mais c'est comme ça souvent qu'on reconnaît. Si on a quelqu'un qui a des opinions extrêmement tranchées, extrêmement. Il y a des opinions sur tout, extrêmement tranchées.
C'est pas nécessairement un
Moi, j'émets
expert.
des doutes sur. C'est
Non,
impossible qu'ils savent tout ça, anyway, de toute façon.
je comprends très bien. Wally t'a parlé d'entrée de jeu, puis ça m'a très intéressé. T'as dit, c'est une guerre. T'sais, Donald Trump se cache derrière le fait que c'est une arrestation pour trafic de drogue. Toi, tu parles de guerre et tu dis là, la première bataille est gagnée avec la capture de Nicolas Maduro, mais la guerre n'est pas gagnée. Pour toi, ça va être quoi les conditions qui vont t'amener à dire que les Américains ont gagné cette guerre-là? Est-ce que, par exemple, ce serait l'élection d'un gouvernement démocratique selon un système démocratique au Venezuela?
Non. Puis je me suis justement posé ces questions-là. C'est qu'est-ce que la définition de réussite et d'échec dans la vie, mais aussi pour les gouvernements? Puis d'un point de vue purement technique, un échec, c'est l'absence, l'accomplissement de la volonté, dans un sens. Tu as une volonté, tu as quelque chose que tu veux, que ce soit ta faute ou pas, ça, c'est pas important. L'important, c'est est-ce que ce que tu veux a été fait? Là, dans le cas des Américains, qu'est-ce qu'ils veulent? Là, ils n'ont même pas clairement défini ce qu'ils veulent. Fait que ça part mal. Fait que c'est flou. C'est brouillon au niveau stratégique, je pense. Peut-être qu'ils le cachent, mais peut-être qu'ils ont une vision. On ne sait pas. Ils ont parlé de pétrole, etc. Là, si j'essaie de deviner un peu c'est quoi leur volonté là-dedans, ça serait d'avoir un gouvernement aligné avec eux autres qui leur donne à peu près tout ce qu'ils veulent. Puis de mettre à la porte l'influence de la Chine puis la Russie là-dedans. Puis après ça, tu as le petit bonbon, c'est la cerise du sundae. Tu as la cerise. Non. La cerise du
Ce
sundae
Sunday,
qui
ouais.
est la guerre à la drogue. Ben là, c'est un point de transit, un des nombreux points de transit. J'ai de la famille d'ailleurs en Amérique du Sud en passant. Hein, fait que, tu sais, je sais c'est quoi cette réalité-là des transits. Puis ça, c'est souvent un enjeu dans les élections en passant. OK, en Amérique latine, dans les pays impliqués. Mais bon, là, c'est ça. La volonté, ça serait ça. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été un gouvernement encore qui est officiellement enligné. C'est un gouvernement qui s'est dit qu'il voulait collaborer, mais peut-être qu'il cherche à gagner du temps, ce gouvernement-là. Peut-être qu'ils sont, tout le monde est comme surpris par cette espèce de foudre-là qui est descendue du ciel, ce raid-là. Là, tout le monde est comme sur le qui-vive, là, tout le monde se prépare, puis tout le monde il y a des pays, il y a plein de monde en ce moment qui vont se dire, écoutez, OK, ils ont vraiment cette capacité-là, puis ils ont la volonté politique de le faire de temps en temps.
Ouais.
Ils ont fait, on se rappelle ce qu'ils ont fait en Iran, etc. Mais là, c'était pas un raid terrestre, là, mais bref, il y a beaucoup de monde là, qui vont se dire, écoutez, il faut se préparer à ça. Puis en attendant, on va leur dire un peu ce qu'ils veulent entendre. Puis après ça, on va se préparer en arrière de ça. Mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le gouvernement américain va réussir à avoir un gouvernement qui est en lien avec leurs intérêts? Peut-être pas tant que ça.
Mais
Peut-être
ça risque
pas
d'être
tant que ça.
compliqué parce que la Chine, la Russie, ils vont pas lâcher le morceau. On le voit très bien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On n'a jamais lâché le morceau. Ils sont capables d'être conquérants. Ils ont des envies, des désirs très
C'est
économiques. Ils
ça
sont.
notre force. C'est notre force en Occident, là. L'opération nous a montré. Encore une fois, que l'Occident, on est une espèce de dragon endormi, que quand on se décide qu'on fait quelque chose, on peut le faire d'une façon assez magistrale. Il y a plein d'exemples à donner là-dessus. Sauf que notre faiblesse en Occident, c'est notre impatience. On n'est pas capable de toffer la run si la run. On n'est pas capable. On est capable de faire des sprints, mais on n'est pas capable de faire des marathons.
OK, qu'est-ce que
La
tu veux dire
façon.
par là?
Ben, dès que c'est long, dès qu'ils commencent à avoir des coûts financiers, dès qu'ils commencent à avoir une incertitude, dès qu'il faut montrer du courage, bref, à long terme. On s'essouffle vite. T'sais, quand on regarde l'Ukraine, moi, je regarde juste dans mon entourage comment il y avait une espèce de support, je veux dire, inébranlable, supposément, envers l'Ukraine. Je parle dans la population, les changements de statut Facebook. Puis là, tout le monde était donc ben, c'est inacceptable, faut faire tout ce qu'on peut. Puis le gouvernement embarquait aussi en partie, mais en mots surtout. Mais il y avait aussi de l'aide. Puis là, très rapidement, après quoi, un an, les gens commencent à enlever leur petit statut Facebook, les petits drapeaux ukrainiens. Oui, on en a encore, mais il y en a moins. On s'essouffle vite. Les Russes le savent. Puis les Russes, c'est des Slaves, sont très résilients. C'est leur force. Ils ont des faiblesses. Ils en ont beaucoup, on l'a vu. Un manque de sophistication technique, par exemple, la corruption, etc. Une incapacité à gérer, à coordonner. Mais ils ont une force, c'est qu'ils sont résilients. Un peu comme les Talibans. Les Talibans nous ont eu à l'usure. Les Talibans disaient, écoutez, vous avez des montres, nous autres, on a le temps. T'sais,
Ouais.
il suffit que vous débarquiez dans 30 ans. Que vous soyez tanné dans 30 ans, vous allez avoir gagné toutes les batailles. Il suffit qu'on gagne la dernière. C'est exactement ça qui s'est
C'est ce qui est
passé.
arrivé. Puis ils nous ont dit ce
C'est
qu'on voulait
ça.
entendre. Finalement, ils sont retournés à leur régime. Mais en ce qui concerne le Venezuela, cette fois-ci, je lisais beaucoup hier. Je suis vraiment dans tout ce qui est vidéo de partout à travers le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont leur façon de voir les choses. Et pour certains, le Venezuela risque d'être combatif parce qu'il pourrait avoir les alliés comme étant la Chine puis la Russie. Il pourrait aller vouloir rechercher leur président. Est-ce qu'on pourrait assister à ça? On arrive aux
Pas
États-Unis.
militairement, évidemment, là. Ils n'iront pas faire un enlèvement ou un équivalent, c'est impossible. Je veux dire, j'entrevois. Par contre, il pourrait avoir une espèce de pression politique. C'est sûr que là, ça devient une espèce de prix, une monnaie d'échange. Fait que là, est-ce que les Américains vont dire à un moment donné, écoutez, on vous redonne Maduro, puis en échange, on veut quelque chose? Ça se pourrait aussi, ça. Ça serait plus dans ce cadre-là que je verrais ça. Je ne verrais pas qu'il y aurait une opération, un enlèvement, quelque chose. Oubliez ça. C'est garder de part et, je veux dire, t'ailles aux États-Unis, puis il faut que tu saches s'ils sont où exactement. Peut-être qu'ils ne sont pas exactement tout le temps au même endroit. S'il y a une préparation en cours, ils vont peut-être avoir encore plus de. Je veux dire, d'un point de vue technique, militaire, oubliez ça, c'est exclu selon moi. Okay? D'un point de vue diplomatique, comme une monnaie d'échange, moi, personnellement, je vois plusieurs scénarios, en effet. Mais je pense pas que. Je pense pas que c'est très intéressant pour les Vénézuéliens, puis pour personne, en fait. C'est plus un prix symbolique. En fait, ça serait plus pour dire on a réussi on a réussi, dans le fond, justement, à imposer notre volonté, mais rendu là, c'est plus t'sais, le retour de Maduro serait plus vu comme un symbole. T'sais, par exemple, là, je donne un scénario X, là, il arriverait un deal, puis là, avec le parce que Trump aime bien gros les deals. Puis peut-être qu'un des deals, ça serait, écoute, il revient, mais nous autres, on veut X, Y, Z, on veut le contrôle de certaines ressources, on veut plus que les Chinois soient là. Là, il y a du monde, par exemple, peut-être que la Chine, justement, qui a été exclue sur le terrain, pourrait dire, ben, c'est nous qui avons comme fait en sorte que les négociations aillent pour la paix, puis après ça, ben, qu'on a ramené Maduro. Il pourrait avoir une espèce de gain de prestige alors que tout le monde s'entend, tout le monde qui connaîtrait la question verrait, non, non, vous avez été enlevé. Parce qu'il y avait beaucoup d'investissements chinois, hein, en Venezuela, il y avait
Ouais,
beaucoup,
en
il y avait une
effet.
implication. Fait que peut-être qu'il y aurait un gain de prestige pour le pays qui ferait comme un peu, qui chapeauterait ces négociations-là du retour de Maduro, ben, peut-être que dans les faits, il y aura une perte en termes d'acquis stratégiques. Tu sais, il y a bien des nuances comme ça que je vois là,
À voir.
personnellement, mais ouais, c'est ça.
Wally, qui est tireur d'élite canadien, t'as participé à plusieurs conflits, dont en Ukraine et en Afghanistan. On parle beaucoup d'une opération militaire parfaite pour être allé chercher Nicolas Maduro chez lui. Toi, comment tu vois ça? Parce que il y a un courant de pensée présentement qui disent on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, mais au moins il agit. Et il y a un autre courant de pensée qui dit hey, tu peux pas agir comme président américain sans l'aval du Congrès puis sans l'aval de la communauté internationale. Tu te situes où, toi, là-dedans, avec ton expérience terrain?
Bon, il y a deux choses, hein. Il y a l'opinion politique, savoir moralement ce que c'est bien ou mal, etc. Il y a ça. Puis il y a la partie exécution technique purement militaire. T'sais, là, c'est deux choses complètement séparées. Puis on peut avoir des opinions techniques et des opinions politiques. En termes d'opinion politique, c'est pas compliqué. Moi, je pense à peu près la même chose que les Vénézuéliens en général, de ce que j'en sais. Puis j'en connais du monde là-bas en passant, au Venezuela. Puis, tu sais, mon opinion, moi, c'est pas compliqué. C'est, je suis content qu'un gars comme Maduro se soit fait snatch, comme on dit. Mais c'est un dictateur qui a fait de la répression, qui a lui-même agi illégalement, OK, malgré qu'il n'y a pas eu de procès officiel pour le prouver, mais en tout cas, à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment des procès qu'il faut. Mais c'est quoi je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Ben, ça, je suis content de ça. Mais j'aime pas que les Américains arrivent avec une espèce d'attitude de conquérant, parce qu'on parle pas de on va libérer Vénézuéliens, c'est vraiment on s'en vient, puis c'est nous autres les boss. Ça, c'est extrêmement néfaste. C'est moralement wrong, je pense. C'est de l'impérialisme. Ça, je suis contre ça, OK, personnellement. Je trouve que c'est mauvais. Puis là, avec Trump, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il veut le pétrole. Ça sera pas fait facilement en passant. On pourra en parler. Mais le pétrole, là, ce qu'il vient de faire à Trump, c'est qu'il vient de complètement discréditer les États-Unis pour des décennies à venir. Parce que là, à chaque fois que quelqu'un va dire, tu vois, les Américains, ils vont faire une guerre ou ils vont faire quelque chose pour les ressources naturelles, pour le pétrole, puis personne ne va pouvoir dire c'est pas vrai. Parce que là, ils l'ont dit. T'sais, fait qu'ils viennent de discréditer. Je
Ouais,
pense
c'est
pas que
ça. Il n'a
c'était
pas dit qu'il le
juste.
faisait pour la démocratie du Venezuela, là. Il a déjà le fait pour le pétrole.
Oui, c'est ça. Mais il y a des situations où je pense que réellement, c'est pas pour le pétrole ou les ressources dans plusieurs d'opération. On pourra en parler. L'Afghanistan en étant une, c'est pas vrai l'histoire du pipeline qu'il y avait à l'époque, etc. C'est pas vrai. Okay? Il n'y avait pas ces choses-là. C'était pas un enjeu. Il n'y avait pas un besoin à ce niveau-là. C'était vraiment une affirmation d'une puissance qui se fait attaquer puis qui veut montrer, écoutez, nous autres, on ne se laisse pas faire. C'est vraiment ça, mon interprétation. Je suis ouvert au débat. Est-ce qu'il y a toujours... Mais par contre, il y a toujours des ressources naturelles quelque part. Donc, l'argument du c'est pour les ressources naturelles, et tout le temps une espèce de joker dans une conversation que tu peux amener, parce qu'il y a effectivement toujours quasiment des ressources naturelles dans un pays. Puis tu peux les montrer. Mais en même temps, c'est pas nécessairement la motivation, selon moi, première, par exemple, dans le cas de l'Afghanistan en 2001. Mais là, avec ce qu'il a dit, tout le monde va pouvoir sortir cette carte-là. Ils vont avoir, tu sais, des vidéos qui vont sortir, mettons des shorts dans 5 ans, parce qu'il va y avoir une autre intervention américaine, par exemple, d'un autre président. Puis les gens vont se rappeler, écoutez, les Américains, c'est ça qu'ils font. Ils veulent du pétrole, ils veulent des ressources naturelles, etc. Puis c'est pour ça qu'ils font les affaires. Fait que quand ils disent qu'ils veulent aller libérer les gens, c'est pas vrai. Même si des fois, il va peut-être avoir une espèce de raison humanitaire, peut-être des fois. Tu sais, en Ukraine, moi, je pense qu'il y a eu, par exemple, Biden ou les anciennes administrations ont vraiment eu une motivation, je pourrais dire, humaniste. C'est-à-dire, on veut aider l'Ukraine parce qu'on veut l'aider. Il n'y avait pas vraiment. Oui, il y avait des enjeux géopolitiques évidents, évidemment, mais il y avait aussi, je pense, une certaine volonté. J'en connais des politiciens. Puis les politiciens, c'est des humains avec des opinions aussi, là. Tu sais, quand ils voient des villes se faire bombarder, des invasions de pays, eux autres aussi, là, ça les affecte, tu sais, je veux dire. Puis ils veulent faire quelque chose pour ça. C'est pas juste tout le temps. Tu sais, quand on parle à des politiciens ou des personnalités d'affaires ou peu importe, c'est pas toujours les raisons. Des raisons machiavéliques, je veux contrôler, je veux ci, je veux ça. Là. Des fois, c'est des humains comme tout le monde qui sont fâchés, puis qui décident qu'eux autres veulent faire la différence. Puis ça peut être ça, des fois. Mais en tout cas, bref, pour revenir un peu là-dessus, ce qu'a fait Trump en mentionnant le pétrole, ça a complètement discrédité les États-Unis,
Puis dans le
d'un
futur,
point de
ça
vue
va être plus
moral.
difficile. Non, exactement, dans le futur, ça va être plus difficile. Il est tireur d'élite canadien. Son nom est Wally. Il a participé à plein de conflits. On a eu l'opportunité, la très grande chance de lui parler ce matin. Wally, merci de t'avoir.